Salut, c'est Samuel Catol. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Bise de Tour. Je suis le créateur et le réalisateur de cette série de podcasts. Dans cette série, j'invite des entrepreneurs de TPE-PME à venir échanger et nous partager leur histoire et leur parcours. Découvrir comment ils en sont arrivés là. Dans ce podcast, je te propose une semaine sur deux de partir à la rencontre d'une ou d'un entrepreneur avec qui j'échange sur son quotidien, ses succès, mais aussi ses échecs, ses craintes et ses galères. Découvrir ensemble ce qui fait de lui ou elle un entrepreneur en toute décontraction et transparence. Ainsi, pour nous suivre et ne pas louper les prochains épisodes, tu peux dès maintenant t'abonner sur notre page Bise de Tour sur la plateforme podcloud.fr ou sur la plateforme de ton choix. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Étienne Séjourné, un jeune entrepreneur qui s'est donné pour grande mission d'aider à la digitalisation de la France. Alors de prime abord, ça semble énorme, mais quand on s'y penche d'un peu plus près, on se dit « Ah mais oui, mais c'est bien sûr !» Après des mois, des années, des réflexions bien entendu, des tests et des échanges avec ses associés, ils sont en passe de réussir. Alors je vous propose de découvrir Louis-Étienne et le parcours d'Utopia, la société qu'ils ont créée. Bonjour Louis-Étienne, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment vas-tu ?
Bonjour Samuel, écoute, merci de m'accueillir. Très bien, et toi ?
Très très bien. Il fait beau, les oiseaux chantent. C'est parfait, on est au printemps. Alors, je vais commencer par une toute première question. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter ?
Eh bien écoute, je m'appelle Louis-Étienne Séjourné, j'ai 25 ans et je suis le cofondateur d'Utopia, qui est une société qui développe des solutions pour les collectivités territoriales sur notre territoire. On est basé à Blois, on a été fondé là-bas. J'y suis né, j'y ai grandi et après un petit tour par Bordeaux, Paris et la Suède pour mes études, j'y suis revenu pour entreprendre.
D'accord. Quel est ton parcours ?
Bah justement, mon parcours, le voilà. Je suis né à Blois où j'ai fait toute ma scolarité et c'est pour mes études supérieures que j'ai quitté la ville tout simplement. Je suis allé à Bordeaux 3 ans où j'ai pu suivre des études dans le commerce à l'ESCA, qui est une école basée à Bordeaux, Paris, Lyon, Angers. Et après 3 ans à Bordeaux, j'ai quasiment fait 1 an en Suède, où ça m'a permis de découvrir un environnement international, des problématiques business aussi, puisque j'y ai fait un stage, et de m'immiscer un petit peu dans le monde du travail, doucement mais sûrement, en découvrant des méthodes assez novatrices. Les pays nordiques ont vraiment un temps d'avance assez conséquent sur la façon de travailler. Et je suis revenu à Paris ensuite pour mon master, ce qui m'a permis de vraiment, pour le coup, démarrer l'entrepreneuriat, puisque j'essayais des petites choses à droite à gauche avant avec des potes. Mais là, j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur en parallèle de mes études.
D'accord.
Et en fait, j'ai suivi un MSc avec l'ESCA et une université qui est au Canada. J'aurais dû partir, mais la crise sanitaire m'en a empêché.
Ouais.
Mais ça m'a permis, confinement oblige, de vraiment me focus sur mes idées, de faire un petit peu une introspection aussi sur ce que je voulais faire. Et c'est de là qu'est né le projet Utopia, c'est sa problématique globale, on va dire, qui est de numériser les territoires à l'échelle nationale.
Oui.
Et comment y apporter une réponse favorable. Et donc c'est de là que j'ai démarré, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Et j'y suis maintenant à plein temps consacré avec mes associés et notre équipe. Et le développement est en cours, on va dire.
D'accord, aujourd'hui... Tu es présent, mais qui sont tes associés quand même ?
Oui, bien sûr, on va les citer, important. Bastien, avec qui ça a commencé au day one, si je puis dire. On a vraiment commencé tous les deux dans mon appart à Paris. On était un ordi pour deux, 50 balles sur la table pour vulgariser et on y va. Et Benoît, qui pour le coup, lui, est un technicien pur et dur, un vrai maître du code et du web, et qui nous a rejoint en cours de route pour apporter justement une vraie compétence technique sur le projet.
D'accord. Alors toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé cette activité en parallèle de tes études, du moins les grandes idées, tu les as eues pendant ta période d'étudiant. Donc tu fais partie de cette génération, j'ai envie de dire, de néo-entrepreneurs étudiants. Qu'est-ce qui t'a motivé à penser au entrepreneuriat sans même avoir goûté au monde du travail ?
Alors c'est une très bonne question. Il faut déjà savoir que je suis issu d'une famille qui n'avait pas de difficultés particulières, mais qui n'était pas non plus dans un confort extrême. J'ai un papa qui tenait sa boutique à Blois et une maman qui travaillait dans le commerce. Et c'est vrai que j'ai tout de suite eu très jeune une éducation qui était de dire on n'a rien sans rien. Si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux réussir, si tu veux avoir accès à une forme de confort, il va falloir travailler.
Oui.
Et donc, ça a impliqué pour moi de commencer à travailler déjà. Dès que j'avais 15-16 ans, en fait, je faisais des petits boulots l'été où je dépannais des personnes, des choses comme ça. Quand on n'est pas encore majeur, on fait comme on peut, quoi.
Oui.
Mais pour me faire un peu d'argent de poche. Et je pense que cette valeur du travail ne m'a jamais conditionné à penser de telle façon que je vais faire 9h-17h, je vais rentrer chez moi, j'aurai des activités, tout ça. J'ai jamais vraiment trop compté mes horaires d'un point de vue général. Et en fait, quand en première année d'études supérieures, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du numérique, c'était pas un travail que de me dire je vais rentrer de cours avec Mathieu et Bastien, justement, mes potes. Et on va se brancher sur la création d'un site internet, on va essayer de faire un truc sympa, tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, c'est plus l'entrepreneuriat qui est venu à moi que moi qui suis allé le chercher parce que j'ai créé de la compétence sans le savoir, j'ai appris, je me suis cassé la figure, j'ai recommencé, enfin... J'ai vraiment progressé de ce point de vue-là. Et il est arrivé un beau jour, si je puis dire, où l'ESCA, mon école, est venue me chercher alors que j'arrivais tout juste en master en rentrant de Suède et m'a dit écoute, on suit un peu de loin ce que tu fais, on trouve ça hyper intéressant, on aimerait que tu suives le MSI spécialisé en entrepreneuriat, justement. Et c'est là qu'en fait est arrivée la structure et de mon profil entrepreneurial et de mon projet. Puisque même si je développais des choses, même si j'avais cette vocation, on va dire, à expérimenter, on va dire, d'un point de vue entrepreneurial, j'avais pas cette structure, même d'un point de vue business, pour vendre correctement, gérer la partie commerciale, le suivi derrière, etc. Et l'ESCA a vraiment mis l'accent sur ça, et c'est ce qui m'a permis de structurer Utopia ensuite. Mais donc je dirais que c'est venu assez naturellement. Je pense que c'était quelque part en moi depuis le départ, et que ça n'attendait qu'une chose, c'était de sortir.
D'accord. Beau parcours. Déjà, la genèse de ton activité, on va dire, pro. Donc, quelle est ton activité?
Alors, Utopia, c'est une société qui est spécialisée, comme je te le disais, dans le développement des collectivités territoriales d'un point de vue numérique. Donc, on accompagne depuis Blois, justement, les petites et moyennes communes, dans un premier temps, sur la gestion relations citoyens. On favorise, par exemple, les démarches en ligne des concitoyens. On leur permet de payer leurs factures, d'inscrire leurs enfants à l'école, de faire des demandes d'urbanisme depuis un espace qui leur est complètement dédié et qui est centralisé à l'échelle de la collectivité. Et en fait, au démarrage, on s'est forcément beaucoup attelé à travailler sur notre département, le Loir-et-Cher, et de fil en aiguille, forcément, notre prospection, nos relations, nos contacts nous ont amenés à aller chercher un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on évolue avec des collectivités de toute la région centre, des Pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et un petit peu en Normandie aussi. Donc le développement est vraiment intéressant. Ça permet aussi d'avoir des projets structurants à l'échelle de collectivités de taille un peu plus importante, avec des agglomérations, des métropoles, des communautés de communes. Et donc d'avoir pour le coup un réel impact sur le territoire tel qu'on l'envisageait au départ. Alors même si on est loin d'être arrivé, on est content de pouvoir dire qu'on arrive un petit peu à s'exporter sur le territoire français.
D'accord. Très bonne chose. Quel est ton plus gros challenge dans la création de ton entreprise?
Je pense que le plus gros challenge à l'heure actuelle, quand on monte une société, c'est de la structurer, tout simplement. C'est de passer de l'idée à la réalisation, parce que des gens avec des idées formidables, il y en a plein. On en croise tous les jours et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des personnes ayant des idées, justement. Mais on sous-estime beaucoup, justement, la capacité d'une idée à devenir réalité. Et une idée, quand on l'a dans sa tête, ça paraît formidable. On se dit que rien ne pourrait la faire échouer, que tout lui est ouvert. Mais quand on la met en pratique, on se rend compte qu'il y a des barrières structurelles qui peuvent être de tout genre, que ce soit financier, que ce soit organisationnel, que ce soit social. Et donc, pour moi, le plus gros enjeu, c'est vraiment de réussir à réunir tous les paramètres pour faire de cette idée une réalité.
Alors, quel a été ton plus gros challenge dans le développement de ton entreprise?
Alors là, pour le coup, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs te le diraient, Samuel, c'est de passer de 1 à 2, enfin, on était déjà 2 au départ, mais donc de 2 à 3, puis de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 10, etc. C'est le recrutement. Vraiment le recrutement, parce que on a des territoires qui sont diverses et variées. Je prends du coup notre exemple, forcément, parce qu'on travaille avec des collectivités qui sont de plusieurs tailles, de plusieurs structures, de plusieurs typologies. Et donc, forcément, il y a des compétences sur ces territoires qui sont assez différentes. Et donc, quand on veut recruter sur des postes techniques, par exemple, il suffit que tu te retrouves sur un territoire où tu ne vas pas avoir la formation adéquate, l'université qui va te permettre d'aller chercher de la jeunesse, des choses comme ça, des profils juniors chez toi, et tu vas te retrouver coincé, en fait. Et donc, tu vas devoir aller chercher un petit peu plus loin, utiliser des méthodes avec le télétravail, tout ça, qui le permettent aujourd'hui, mais qui nécessitent une confiance un peu plus relaxe. Donc, ce n'est pas toujours facile. Mais donc, je dirais le recrutement. À l'heure actuelle, chez Utopia, on touche vraiment du bois, puisque que ce soit sur nos recrutements en CDI ou sur les stagiaires qu'on a eus, on est hyper chanceux. On a vraiment eu des bons profils, mais ça reste quand même très chronophage. Il faut aussi te dire que lorsque tu es un jeune entrepreneur qui lance sa boîte, tu dois être au four, au moulin en même temps. Ouais. Donc automatiquement, le temps que tu passes sur un recrutement, c'est du temps en moins avec des clients ou des prospects. Donc c'est une vraie organisation de recruter pour le coup, et je pense que c'est l'enjeu le plus important.
D'accord. Et dans ton recrutement, justement, tu parles de difficultés de par le territoire, de par la confiance que tu peux apporter aussi à tes collaborateurs. As-tu pensé aux collaborateurs freelance ou t'es-tu directement orienté vers le salarié ?
Alors, on avait pensé effectivement aux freelance et on y pense toujours. Mais à titre personnel, forcément, quand on démarre à deux, on a pour but de structurer la société. Donc, ouais, ça passe par des recrutements permanents, si je puis dire. Et même aux yeux de nos clients, ils s'attendent à avoir des prestataires qui, eux aussi, sont structurés. C'est une forme de garantie pour eux. Et donc, la structure passe alors forcément par le résultat, mais aussi et surtout par le nombre de collaborateurs, qui est un indicateur de saineté, si je puis dire, d'une structure. Donc, forcément, on privilégie dans un premier temps le salariat. Néanmoins, et ce n'est pas... une révolte de ma part, mais le salariat en France coûte cher à la société. Ouais. Les entreprises déboursent quand même beaucoup d'argent pour pouvoir accueillir des salariés. Et c'est vrai que les alternatives, qu'elles soient freelance, stagiaires ou alternants, puisqu'on se rend compte qu'il y a des alternants qui sont très compétents aussi,
bien sûr, oui,
elles sont très intéressantes. Et j'ai eu la chance de rencontrer des freelances sur différents métiers, mais qui sont très ciblés. Alors, je pense forcément à des vidéastes, je pense à des graphistes, des monteurs aussi, des personnes comme toi qui font un boulot sur vraiment une niche, et ça a un vrai intérêt puisque c'est des personnes qui sont spécialisées, ouais, qui vont avoir la capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps. De ton côté, tu vas pas avoir un besoin qui va être récurrent à hauteur de 35 heures par semaine. Par contre, les solliciter ne serait-ce que 20 heures par mois, bah, c'est pas mal, et ça te crée des partenaires qui sont hyper intéressants.
Bien sûr. Et dans la progression de ton activité, quelle stratégie a fonctionné pour toi?
Alors, en interne, une organisation assez flexible, très transparente, c'est-à-dire que, alors, on a forcément tous et toutes des métiers et des rôles bien distincts. Par contre, on doit être capable, de par notre taille qui se veut relativement concentrée et de par notre activité qui, elle, se veut pour le coup relativement flexible en fonction des projets qu'on a avec les collectivités. Un collaborateur doit être capable, pour le coup, de changer un petit peu son fusil d'épaule, de s'adapter, ouais, à son interlocuteur. Et si demain, on nous demande non pas un site internet de ce format-là, mais plutôt une application mobile, voilà. C'est un exemple un peu vulgaire, mais il faut, ouais, être capable d'apporter des réponses à ce type de problématique. Donc vraiment une flexibilité aussi bien en interne et qui sert du coup nos clients. Mais après, nous, en tant qu'associés, on essaye vraiment de mettre en œuvre une confiance la plus totale. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai vraiment confiance en mes collaborateurs. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Bien sûr.
Ouais. De ce point de vue-là, pas de problème. Mais ouais, jouer la confiance et être en mesure de pouvoir se dire, voilà, bah, là, je vais me concentrer sur ce projet-là. Je sais que les mecs bossent à côté sur ça et on fera un point ensemble en fin de semaine, ça ira très bien. Voilà.
D'accord. Alors, on va passer du côté stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qui a fonctionné ?
Le travail. Il n'y a vraiment pas de secret pour le coup. Il n'y a pas de formule magique. J'ai longtemps pensé que c'était le cas et qu'on pourrait avoir justement un chemin dédié justement à la prospection commerciale qui soit hyper efficace. On a suivi plein de formations, on a fait des séminaires, des choses hyper intéressantes. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais le fait de dire, voilà, vous commencez avec un courrier papier, vous enchaînez avec deux mails, puis vous passez un coup de fil... Oui, effectivement, c'est vrai, c'est un process, mais ce n'est pas un process qui marche à coup sûr parce que ça dépend de ce que tu mets dans ta lettre, de comment tu passes ton coup de fil, etc. Donc, c'est itérer, c'est vraiment essayer, réessayer, potentiellement tenter une approche, puis une autre. Et on s'est rendu compte que, bah, pour nous, en tout cas, avec les collectivités, la performance la plus accrue, c'était vraiment avec le contact. Donc, décrocher son téléphone, faire des journées entières de phoning où on récupère... 10, 15, 20, 30 rendez-vous étalés sur un mois. Et on peut vraiment se concentrer après, du coup, sur chaque client, aborder une problématique concrète, puisqu'on a pu échanger avec eux, savoir ce dont ils ont besoin, dans quelle mesure, etc. Avoir un suivi qualitatif aussi. Mais vraiment se mettre voilà, dans une perspective de dire on prend le téléphone, on appelle et on écoute. C'est ce qui marche bien. Alors après, en grossissant, il faudra forcément des personnes qui soient aussi sur le sujet avec nous, parce qu'on ne pourra pas se démultiplier. Mais je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux pour nous à l'heure actuelle.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
La dépersonnalisation, justement. Le fait d'envoyer des mails qui soient complètement génériques ou même des courriers.
Ouais.
On a eu énormément de retours négatifs de ce point de vue-là qui nous disaient « c'est jamais que de la pub ». Donc d'accord. Ça, si je peux vraiment déconseiller quelque chose, c'est la dépersonnalisation.
Oui, c'est bien. Tu as pu tester différents modèles, on en parlait tout à l'heure. Je pense que chaque entreprise doit éprouver certaines hypothèses, tout simplement. Et ce qui est valable pour toi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont fait de la masse, hein, notamment faire du mailing à outrance.
Ouais.
Ça peut fonctionner.
Ouais, ça peut fonctionner.
Et c'est de l'automatisation. Donc,
voilà. Mais effectivement, il faut que le produit s'y prête aussi parce que automatiser sur du volume, c'est intéressant. Mais si votre produit ne s'y prête pas, peu de chances que ça fonctionne.
Ouais. Alors, qu'est-ce que pour toi un entrepreneur ? Tu nous disais tout à l'heure que tu avais des parents qui est entrepreneur. Qu'est-ce que pour toi un entrepreneur ?
Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui déjà fait preuve d'énormément de résilience. C'est quelqu'un qui est prêt à se mettre en difficulté, tout simplement,
ouais.
Pour accéder à quelque chose de plus confortable ensuite. Si je vulgarise, c'est être prêt à faire un pas en arrière en termes de confort, peut-être en termes aussi de rythme de vie, tout ça, pour en faire 2, 3, 4, 5, 10 après. Grâce à ce premier pas en arrière. Donc c'est vraiment faire preuve de résilience, c'est accepter le risque aussi, parce que on n'est pas sûr lorsqu'on lance un projet que ça va fonctionner.
Oui.
On peut se démener, on peut réussir à en vivre, mais rien ne nous indique qu'on va devenir la prochaine licorne française ou qu'on sera coté en bourse, hein, rien de tout ça. Donc il faut croire en son idée, croire en soi, croire aussi en ses collaborateurs, mais surtout avoir le goût du risque malgré tout. Et je pense qu'une troisième caractéristique de l'entrepreneur, ce serait d'avoir une appétence toute particulière à se retrouver en difficulté, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire se retrouver face à soi-même,
oui.
Se dire voilà, maintenant, mon pote, tu vas bosser, tu vas te la donner un peu et tu vas aller chercher ce que tu veux. Et là, on rentre plus dans mon expression de se mettre en difficulté sur une expérience de vie qui nous fait grandir que sur un rythme banal, et je suis loin de critiquer le salariat, j'ai des personnes autour de moi qui sont salariés, qui sont très satisfaits de ce qu'ils font, c'est des projets hyper inspirants, mais l'entrepreneur doit accepter de se mettre en difficulté, plus que ne le serait une personne lambda.
Oui, ça c'est clair, hein. Ça te pousse, de toute façon tu es au pied du mur, et ça te pousse à aller puiser en toi.
Exactement.
Et sortir ce que tu as dans les tripes, des actions que tu ne pensais pas mener 6 mois auparavant, les mener aujourd'hui et tout ça dans un but de réussir, bien entendu.
Ouais, exactement. Avoir une vision aussi, hein. C'est hyper important. Le fait de... Parce que ton idée est ce qu'elle est, elle peut ne pas parler à tout le monde, elle peut ne pas forcément être concrète aussi pour les personnes avec qui tu échanges sur ça. Mais si toi, tu as une vision et tu sais où est-ce que tu veux aller, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, tu as une idée de base, il faut la passer en réalité. Et en fait, le lien qu'il va y avoir entre cette idée et cette réalité, ça va être la vision et ta capacité à te cantonner à cette vision, à potentiellement aussi l'améliorer, la modifier, mais pour arriver à la réalité.
Ok. Quel est le principal conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer ?
Lancez-vous, tout simplement. C'est un peu réducteur, mais j'avais entendu mon grand-père, quand j'étais petit, me dire que chacun dans sa vie est amené à faire face à des épreuves de taille et d'importance différentes, est amené à avoir des projets de taille et d'importance différentes. Mais la seule différence entre une personne qui va au bout de son projet, quel qu'il soit, et celle qui n'y va pas, c'est le fait de se lancer et d'y aller, quoi. D'y aller franchement, ouais. Pas de juste tremper un pied dans l'eau, voir si elle est suffisamment chaude, etc. C'est, allez hop, peut-être la première. Donc non, simplement de se lancer. Après, de toute façon, je pense que tu es aussi bien placé que moi pour le savoir, Samuel. Quand on lance un projet, l'idée qu'on s'en faisait au jour 1, est différente de comment ça se passe au jour 30,
oui.
Qui est encore différente de comment ça se passe au jour 90, 3 mois plus tard. Enfin,
Ça évolue en permanence.
Exactement, ça évolue en permanence et je pense que c'est en se lançant qu'on va justement apprendre à itérer, à tenter des nouvelles choses pour réussir à accéder aux résultats escomptés ou en tout du moins s'en rapprocher.
D'accord. Et dans ta vie d'entrepreneur ou même avant ta vie d'entrepreneur, as-tu des personnes qui t'ont inspiré ou des mentors ?
Ouais, carrément. Bah, je viens de citer mon grand-père, c'en est un pour le coup, mes deux grands-pères même, de chaque côté. Qui étaient des entrepreneurs dans leur secteur respectif, vraiment à des endroits différents, puisque l'un était viticulteur en Loire-et-Cher, l'autre était expatrié au Gabon, donc vraiment rien à voir.
Ouais.
Ma mère, quand même, qui s'est beaucoup démenée pour apporter ne serait-ce qu'une once de joie au sein de son foyer, travaille beaucoup, pas compter ses heures, et a vraiment tout fait pour qu'on soit à l'aise. Je peux pas m'empêcher de citer aussi des personnes qui me sont beaucoup moins proches, mais qui m'inspirent, comme Steve Jobs. Je me suis beaucoup intéressé à sa vie et pour le coup à sa vision aussi telle qu'il l'avait sur Apple. J'ai lu son autobiographie, j'ai vu pas mal de choses sur lui. Et si vous cherchez ce qu'est une vision, je vous recommande vraiment ce livre à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Parce que c'est vraiment l'exemple type d'avoir une vision, de commencer dans un garage à l'américaine, comme on aime bien le dire, et arriver sur quelque chose d'assez formidable. Et j'ai bien envie de citer aussi quand même Walt Disney, pour le coup.
Oui.
Qui est un entrepreneur complètement différent de ceux de la tech ou même de ceux de la mode, par exemple, ce genre de choses, mais qui a créé quelque chose d'immense, en l'occurrence avec Disney. Et il a commencé tout petit, en fait, quand je dis tout petit, c'est de façon très modeste, avec des dessins, des idées, ouais. Des histoires. Et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, on a l'exemple type d'une idée qui évolue en grandissant. Et c'est une personne qui est très inspirante de ce point de vue-là.
Oui. Alors, de Walt Disney, j'avais vu justement une espèce de carte où il avait graphiqué justement sa, ouais. Sa vision sur le dessin, sur les parcs, sur
c'est dingue, hein.
Tout ce que tu peux faire en merchandising derrière. Oui, c'est énorme.
Ah ouais, c'est clair.
Ok, des personnes inspirantes, ça c'est sûr. Et je vais passer du coq à l'âne, sauter du coq à l'âne. Alors, quels sont tes futurs projets ?
Alors, mes et nos futurs projets chez Utopia, c'est forcément de passer la société à une échelle nationale, avec pour volonté vraiment d'influencer l'ensemble des territoires français. On sait que ça fonctionne très très bien sur les territoires avec lesquels on travaille, donc on aimerait vraiment aller chercher ceux qui sont un petit peu plus loin de chez nous. Le second, ce serait potentiellement d'envisager un export à l'international. On a déjà eu des contacts de ce point de vue-là pour proposer la solution dans des pays francophones.
Oui.
Je pense au Canada, à la Belgique, mais sans aucune forme d'aboutissement pour l'heure, tout simplement parce que les administrations des pays sont toutes très différentes.
Oui.
Et puis après, d'un point de vue général, ce serait quand même de compléter l'intervention d'Utopia avec des projets encore plus structurants pour les territoires, que ce soit pour mettre en avant justement les entrepreneurs de nos territoires, que ce soit pour créer du lien entre les collectivités, la population, les centres d'intérêt. Parce qu'on vit dans un pays qui reste quand même très centralisé,
ouais.
Au niveau des grandes villes, avec la population qui s'y trouve forcément. Donc les compétences et donc les entreprises qui proposent des emplois, etc. Mais on a des territoires qui sont pour le coup riches d'intérêts, riches de possibilités. Donc l'idée, ce serait de les tirer encore un peu plus vers le haut.
D'accord. Quel entrepreneur me conseillerais-tu d'inviter ?
Alors, j'en ai forcément deux en tête. Le premier, c'est Jean Mathias, qui est un ami personnel qui développe une société spécialisée dans les NFT.
D'accord.
Je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'il me l'a... il m'a demandé de ne pas trop en parler pour l'instant, mais ça pourrait être l'occasion de faire aussi sa com de lancement, puisqu'il n'est pas tout seul sur le projet. Et après... Là, je réfléchis, je t'avoue.
Bah, un, c'est très bien.
Un, c'est très bien ?
Ouais.
Ok.
Moi, ça me va bien. Alors, comment te contacter ?
La façon la plus simple de me contacter, je pense que c'est via LinkedIn. Louis-Étienne Séjourné, LinkedIn. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin de trouver et surtout, vous pourrez m'envoyer un message.
D'accord. Ton site internet ?
Le site internet d'Utopia, si vous avez besoin d'une intervention, en l'occurrence pour votre collectivité, avec grand plaisir, www.utopiaconsulting.fr, qui vous permet aussi d'avoir une vision à 360 degrés de ce que nous proposons.
D'accord. Donc, nous arrivons à la question bonus et tu vas tirer au sort une question de ce magnifique panier à stylo.
Et la question sera, si tu pouvais changer une chose dans ton business, quelle serait-elle ? Alors, je pense que je vais dire, sans la moindre hésitation, les délais de prise de décision des collectivités.
D'accord.
Que je respecte profondément. Il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Mais on sait, elles savent, nous savons tous que la décision va être prise. Pourquoi mettre 3 mois avant de l'arrêter ? Voilà, c'est tout. Mais je sais à quel point c'est chronophage aussi pour les élus, pour les agents. Donc, pas d'inquiétude. Mais si ça pouvait changer, en tout cas, être tiré un petit peu plus au rabais, ça m'arrangerait quand même pas mal.
Ouais, je pense. Ça arrangerait beaucoup de monde.
Ouais, je pense aussi.
Ok, donc nous sommes déjà à la fin de cet épisode. As-tu passé un bon moment ?
Ouais, ouais, ouais. Excellent moment. Merci beaucoup pour ton invitation, Samuel. Un vrai plaisir de venir te rencontrer ici et de aussi prendre connaissance de ton activité sur le territoire.
D'accord. Et avant de finir, quel serait ton mot de la fin ?
Merci, tout simplement. Merci alors autant à toi du coup pour aujourd'hui, mais aussi aux personnes qui nous écoutent, de nous accorder un petit peu de leur temps, parce que c'est toujours appréciable d'être écouté. Et merci à toutes les personnes qui œuvrent justement pour développer l'entrepreneuriat en région centre, dont tu fais éminemment partie. Donc un grand merci à toutes ces personnes.
D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Et t'es venu sans hésiter, donc... C'est super gratifiant pour le travail accompli. Et surtout, merci de nous avoir partagé ton parcours. En tout cas, j'étais ravi de t'accueillir dans mon studio pour enregistrer cette émission.
Tout le plaisir est pour moi. Merci Samuel.
Je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Cet épisode t'a plu ? Tu souhaites nous soutenir ? Tu peux le faire en réalisant plusieurs petites actions. En likant cet épisode sur ta plateforme d'écoute, cela permettra d'améliorer notre référencement. Tu peux aussi partager cet épisode à ton entourage. Pour nous suivre, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast sur la plateforme audio de ton choix. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Merci à toi, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.